Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinel, un programme Maurice Clément Fèvre. Notre artiste vient de s'unir au groupe des peintres dissidents en réaction contre le salon officiel. Leur première exposition en 1974 fut un désastre, le public absent et la critique acerbe. Prenons notre palette et posons notre chevalet en terre parisienne pour la manifestation suivante. Bienvenue chez Hilaire Germain et Edgar Degas.
Des réactions diverses.
En 1876, a lieu dans les locaux de Paul Durand-Ruel, au 11 rue Lepelletier, la seconde exposition de peinture. Degas participe à la mise en place de la manifestation et prendra par la suite de plus en plus de pouvoir lors des préparations suivantes. À cette occasion, il rédige une lettre à Berthe Morisot en ces termes.
« Chère madame, je ne sais si vous avez été prévenue que voici le moment d'envoyer vos tableaux. On ouvre jeudi matin, 30 de ce mois. Il est donc urgent que vous envoyiez lundi ou mardi et que vous veniez, si c'est possible, veiller à votre placement. On a le projet de disposer chacun en un tas, se mélangeant le moins possible. Je vous en prie, venez veiller à cela. Et puis, j'ai à vous demander votre permission pour deux choses. Je compte exposer une ébauche ancienne d'un portrait de votre sœur, Madame Gobillard, et un portrait de votre mari assis au bord d'une grande route. Certainement, je ne le ferai pas sans votre consentement. »
20 artistes y sont représentés, dont Monet, Renoir, Sisley, Berthe Morisot et Degas avec 22 tableaux. Il y produit des œuvres exécutées lors de sa visite à la Nouvelle-Orléans. Cour d'une maison est éclipsée par portrait dans un bureau qui reçoit un accueil mitigé, suscitant bon nombre de commentaires. Armand Sylvestre déclare
« Une peinture tout à fait spirituelle et devant laquelle on passerait des journées. »
Il note également que le peintre se distingue par la vérité de ses études de coulisses. Par contre, Émile Zola, d'un tout autre avis, proclame
« Il peint des tableaux comme des portraits dans un bureau, à mi-chemin entre une marine et le polytype d'un journal illustré. Ses aperçus sont excellents, mais j'ai peur que son pinceau ne devienne jamais créateur. »
Arthur Bénière note le 13 avril 1976
« En tête des hommes, nous plaçons M. Degas, le pontife, je crois de la secte des intransigeants impressionnistes. »
Quant à Albert Wolff, dans un article du Figaro du 3 avril 1976, il déclame
« Essayez donc de faire entendre raison à M. Degas. Dites-lui qu'il y a en art quelques qualités ayant nom, le dessin, la couleur, l'exécution, la volonté. Il vous rira au nez et vous traitera de réactionnaire. »
Mais Degas, impassible, répond par le silence. Quand il s'agit des attaques de Wolff, dont chacun connaît le physique, il lance
« Que voulez-vous qu'il comprenne? Il est arrivé à Paris par les arbres. »
Est présenté aussi un tableau des repasseuses, dont la critique est choquée par les bras foncés. Heureusement, Degas compte parmi ses amis quelques journalistes défenseurs de l'impressionnisme. Edmond Duranty en fait partie. Il s'est lié d'amitié au Café Gerbois avec Edgar, dont les idées se rejoignent. D'ailleurs, en 1976, Duranty sort une brochure, La Nouvelle Peinture, une étude sur ce mouvement impressionniste. On soupçonne Degas d'en être l'auteur. Duranty parle du peintre en ces termes.
Un artiste d'une rare intelligence, préoccupé d'idées, ce qui semblait étranger à la plupart de ses confrères. Profitant de ce qu'il n'y avait pas de méthode ni de transition dans son cerveau actif toujours en ébullition, l'appelait-on l'inventeur du clair-obscur social.
Le 20 avril, Degas déménage de la rue Blanche pour s'installer dans un hôtel particulier aux 4 rue Fruchot. Il continue d'envoyer ses œuvres à Londres, notamment de la série des danseuses et son tableau portrait dans un bureau. Il demande à Deschamps de lui payer les 7000 francs dus en mai. Ce dernier lui envoie 2500 francs. Degas le remercie en juin, lui parle de la banque paternelle qui doit être liquidée et de ses problèmes de vision.
« Quelles angoisses j'ai encore souvent, et pour ma vie et pour mon art que j'aime tant, et qui m'échappera si le mal augmente tant soit peu. Infernale aventure !»
Avec Achille, il retourne à Naples en juin pour des rendez-vous auprès des créanciers. Il implore Deschamps de lui envoyer les 4500 francs restants. En juillet, Degas s'est lancé dans la création d'estampes et de monotypes. Puis en août, son frère René retourne à la Nouvelle-Orléans endetté. La banque paternelle est fermée, laissant des dettes à rembourser par les enfants. Edgar, Achille et Marguerite, leur sœur, sont obligés de vivre modestement tant que René n'a pas remboursé sa part. Les années fastes sont derrière Degas, et il y a l'honneur du nom à sauver à tout prix.
Degas et les prostituées.
Bien qu'issu d'un milieu bourgeois à la morale bien pensante, paradoxalement, Degas, misanthrope et plutôt misogyne pour certains, va à partir du milieu des années 70 jusqu'à 1885, s'engager dans la production d'une cinquantaine de monotypes sulfureux. Il brosse des scènes de maisons closes. Les femmes dénudées, pour la plupart du temps seulement vêtues de leur tour de cou, bas jarretières et mules, attendent le client. Nous sommes bien loin du nu académique. Ces corps impudiques, avachis, entassés dans des salons, s'offrent aux hommes plutôt rares dans les compositions de Degas. Cette série de monotypes impudents va inspirer Pablo Picasso à la fin de sa vie. Il reconnaît que les tableaux de Degas ne l'ont jamais beaucoup intéressé. Par contre...
Mais les monotypes, ce n'est pas pareil, c'est ce qu'il a fait de mieux.
En effet, Picasso consacrera une série de gravures sur le thème des filles de joie, y incluant Degas en dessinateur, en observateur ou en portrait sur le mur. Et il rajoute...
Il m'aurait foutu son pied au cul, Degas, s'il s'était vu comme ça.
On suppose qu'un roman de 76, de Carl Huysmans, Marthe, histoire d'une fille, ait pu suggérer à Degas cette série audacieuse, mais aussi Edmond Goncourt avec La fille d'Elisa, ou Guy de Maupassant avec La maison Tellier. C'est la grande période du naturalisme cher à Zola aussi. Dans ce Paris en pleine effervescence, embellie, modernisée après les travaux de Georges Haussmann, il ne faut pas oublier qu'existe en parallèle un monde de corruption où la débauche et la luxure ont pignon sur rue. D'un côté, la prostitution de luxe avec ses courtisanes, demi-mondaines, femmes entretenues. De l'autre, celle des maisons de tolérance, légiférées par la loi de 1829. Mais une autre forme de débauche se répand, celle du racolage aux terrasses des cafés, sur les boulevards et trottoirs. Degas nous en offre un exemple avec son pastel « Femmes à la terrasse d'un café le soir » à Orsay. Le peintre croque ses dames attablées à la terrasse depuis l'intérieur du bistrot, se racontant leurs aventures avec les clients. Georges Rivière déclare
« L'une des femmes fait claquer son ongle contre sa dent en disant « Pas seulement ça, qui est tout un poème ».
Ces monotypes ont dû être réalisés en atelier, d'imagination ou de souvenir, bien qu'aucune trace de croquis ne subsiste. On soupçonne la parenté proche de Degas d'avoir détruit les scènes les plus scabreuses. Parmi les titres évocateurs de ces représentations, nous trouvons « La fête à la patronne »,« Le client »,« Au salon »,« L'attente »,« Repos ». Toulouse-Lautrec reprendra ce thème singulier plus de 10 ans plus tard. Allons de ce pas découvrir tout d'abord au musée un de ses tableaux.
Du côté du musée.
La fête à la patronne, de 76-77, musée Picasso à Paris, dépeint le défilé des belles de jour ou de nuit, dans leur nudité la plus complète, offrant à leur honorable patronne un bouquet de fleurs. Le marchand de tableaux, Ambroise Vollard, déclare alors
« Lorsqu'on touche à de pareils sujets, c'est souvent pornographique. Il fallait être Degas pour donner à la fête à la patronne un air de réjouissance en même temps que la grandeur d'un bas-relief égyptien. »
Cette toile sera acquise par Picasso en 1958. Posons maintenant nos yeux sur un tableau d'un autre genre au musée d'Orsay, nommé « Dans un café » ou « L'absinthe ». Inscrite au catalogue de l'exposition de 1976, cette toile n'est pas présente, car Degas l'a envoyée chez Deschamps, à Londres, pour la vendre. C'est le capitaine Hill, collectionneur de Brighton, qui en devient propriétaire jusqu'en 1892. Cette toile fera encore scandale à cette date. Nous y apercevons deux amis qu'Edgar a fait poser, assis à une table du café de la Nouvelle Athènes. Hélène André, l'actrice, est devant son verre d'absinthe, les yeux baissés, l'air absente. À côté se tient Marcelin Desboutins, peintre, graveur, barbu, fumant sa pipe, un chapeau relevé sur la tête, regardant ailleurs, un verre devant lui. Chacun est muré dans son silence. Ils sont tous deux relégués dans le quart supérieur droit du tableau. Ce cadrage décentré, le bras coupé de l'homme, nous rappelle, une fois de plus, l'influence des estampes japonaises. Les tonalités jaunâtres des tables, la banquette sombre, n'apporte pas une note de gaieté à cette toile mélancolique, décrivant une plaie de l'époque, l'alcoolisme.
Pouvons-nous en savoir un peu plus ?
Fin du XIXe siècle, en France, la consommation d'absinthe s'élève à 130 000 hectolitres. Elle augmente de 280% de 1880 à 90. C'est devenu une pratique sociale. L'alcool se répand partout, au travail, à la maison, en passant par le café. N'importe qui, en 80, peut ouvrir un estaminet. L'alcoolisme est devenu un fléau déclenchant violence, criminalité et dégradation de la santé. À propos du tableau, un critique note.
La perfection dans la laideur. Incontestablement, une peinture habile, quoique exécutée dans une technique désinvolte relevant de la provocation. La couleur est aussi repoussante que les personnages. Un fruste ouvrier français à l'air sensuel et une grisette maladive. Un couple parfaitement repoussant. L'écœurante nouveauté du sujet retient l'attention.
Cette toile atterrira de 1893 à 1911 dans la collection du comte Isaac de Camondo, avant d'être léguée aux musées nationaux. Degas a peint cette œuvre dans son atelier, après un travail minutieux de préparation sur place. Afin de ne pas nuire à la réputation des deux modèles connus, Georges Moore fit une mise au point publiquement sur leur sobriété. Vers 1875, Degas nous laisse Madame Gentot au miroir, à Orsay, femme de son camarade d'armes de la guerre 70. Berthe-Marie Bachou est décrite en pied de profil, s'admirant dans le miroir avant de sortir. Son reflet, moins précis, nous la renvoie de trois quarts nous observant. Nous sommes à mi-chemin entre le réalisme et le synthétisme préfigurant le mouvement cubiste. En 1907, ce tableau fut acquis pour 23 000 francs au modèle par la maison Bousseau-Valadon et compagnie. En 1970, il est attribué au musée du Louvre. Il est de tableaux que Degas commence et termine quelques années plus tard, la classe de danse Orsay, débutée en 73, achevée en 75-76. Une vingtaine de danseuses sont saisies dans une salle de l'opéra rue Le Pelletier. Le maître de danse est Jules Perrault, célèbre danseur des ballets romantiques avec Marie Taglioni. Les mains appuyées sur son bâton lui servant à marquer la mesure, il attend qu'une danseuse débute ses exercices sous les yeux de ses camarades. Une ballerine au premier plan se gratte le dos. Une autre réajuste une épaulette ou une fleur dans les cheveux. Un petit chien regarde l'arrosoir vert qui sert à arroser le parquet afin d'éviter de glisser. Une diagonale oblique, renforcée par les lignes du parquet, coupe le tableau, laissant un grand espace vide autour de Perrault, tandis que s'amasse, au fond de la salle, un groupe de jeunes filles et leur mère. Une autre variante existe, la classe de danse, dans une collection particulière. Jules Perrault est déporté cette fois au bord du tableau. Les lignes du plancher, parallèles à la toile, n'accentuent pas ici de perspective. À propos du parquet, Paul Valéry note.
Degas est un des rares peintres qui ait donné au sol son importance. Il a des planches admirables.
De 76 à 89, cette œuvre transite aussi chez le capitaine Hill, puis part chez Michel Manzi jusqu'en 94, pour finir dans la collection du comte de Camondo, avant le legs de 1911 aux musées nationaux. Une autre facette des danseuses à la barre, la leçon de danse d'avant 76, est à William Stone. D'un format très rectangulaire, une grande place est donnée au plancher vide, les murs et fenêtres sont coupés à moitié. Les danseuses se tiennent seulement dans la diagonale supérieure. Degas opte aussi pour un cadrage particulier, comme Caillebotte. Voyage en terre de couleur se termine aujourd'hui sur des thèmes réalistes à l'époque, la prostitution et l'alcoolisme. Retrouvons-nous prochainement sur cette même antenne pour les trois prochaines expositions des impressionnistes.